Jacob, épisode
2.
Et dans toutes les bonnes séries TV, on commence par un rappel de l'épisode précédent. Alors Jacob est un patriarche, mais avant d'être un patriarche, il est le fils d'Isaac, qui est un père un peu transparent, et de Rebecca, qui est une mère un peu manipulatrice et dominatrice, comme ça arrive parfois. Et un frère aîné, qui s'appelle Ésaü, qui est un petit peu niais, il faut le dire aussi. Jacob, dès sa naissance, signale ses intentions en tenant le talon de son frère qui est né, donc puisqu'il sort de la matrice avant lui. Il tient le talon. Il le talonne de près. Jacob veut dire le talon. Ou on pourrait dire le talonneur qui pousse la balle dans son camp et qui parfois même fait des talonnages à la main, ce qui est complètement interdit. Il ne va pas s'arrêter là, il va usurper le droit d'aînesse à Ésaü et usurper aussi la bénédiction qui lui revenait à Ésaü. Il va réussir à tromper son frère, donc, a trompé son père, et il porte bien son nom, qui veut dire aussi, en plus de talon, le trompeur, l'usurpateur. Mais il doit fuir, parce que on finit toujours par être rattrapé par ses mensonges, et Jacob doit fuir son frère Ésaü, qui veut lui faire la peau. Tout est faux chez Jacob, le trompeur. Et là, on l'a vu dimanche dernier, premier moment de grâce et de révélation, le rêve de l'échelle où Jacob voit, où c'est pour Jacob comme si Dieu lui ouvrait le ciel, comme si Dieu lui tapait sur l'épaule en lui disant « Je suis là, t'es un fameux menteur, Jacob, t'es un fameux trompeur, mais je peux et je veux faire de toi quelqu'un de bien et d'utile pour ce monde ». Pour réaliser en toi la promesse ou les projets que j'ai pour toi. J'ai cette volonté de te transformer, Jacob. Et Jacob est impressionné, et comme tout le monde, il monte une stèle pour immortaliser l'endroit, une sorte de cairn, un point de repère sur son chemin de vie, un moment de grâce, et il appelle ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Bethel, El pour Elohim, Dieu. Et c'est vraiment un endroit où Dieu habite, s'exclame Jacob, le sanctuaire de Dieu. Première expérience de Jacob sur son chemin de vie. Et peut-être qu'il a un petit peu changé à partir de là, alors qu'il continue sa route, enfin qu'il fuit son frère Ésaü, et qu'il arrive chez son oncle Laban. Et là, il craque pour une jeune fille, la belle Rachel. Il sanglote dans les bras de Rachel comme quoi l'amour d'une femme ou pour une femme fait ressortir ce qu'il y a de bien dans l'homme, du moins au début, soyons réalistes. Mais il craque vraiment. Et peut-être que sa faille de trompeur invétéré, peut-être que ça révèle sa faille de trompeur invétéré et son insécurité profonde à Jacob, qu'il veut cacher derrière ses tromperies successives. Alors, on ne veut pas trop psychanalyser le patriarche potentiel, mais bon, en tout cas, il est prêt à tout pour avoir celle qui le fait craquer. Et pour une fois, il va essayer de l'obtenir avec des moyens licites. Il va en parler au père, qui est aussi son oncle, Laban, au père de Rachel. Et il va passer un deal avec Laban. Et il est prêt à travailler 7 ans pour Laban et pour avoir Rachel. Et là, retour à l'envoyeur, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. C'est Jacob le trompeur qui se fait tromper par Laban. Laban rajoute 7 ans. Il lui donne sa fille aînée, sans que Jacob le sache. Et on voit que le récit joue sur ce droit d'aînesse. Parce que Laban dit, moi je t'ai donné ma fille aînée, parce que ça ne se fait pas dans notre coutume. On donne d'abord la fille aînée avant de donner la cadette. « Ouais, mais moi, je voulais la cadette. Ouais, merde, ouais. » Et ça lui rappelle peut-être le droit d'aînesse qu'il a usurpé à son frère Ésaü. Bref. Et donc, Laban, là, sort une clause inconnue du contrat et rajoute des années de travail à Jacob pour avoir Rachel. Et on ne le dit pas, mais pendant ce temps, Rachel vieillit dans son coin et n'est toujours pas mariée avec Ésaü. Et donc le trompeur est trompé. Et on peut imaginer que cette expérience ait provoqué quelque chose dans la vie de Jacob. Une sorte de, on peut espérer une sorte de retour sur lui-même, où il se dirait que ce que lui a fait Laban, c'est ce que lui fait aux autres depuis sa naissance, hein, les tromper. Mais rien ne laisse paraître que Jacob ait changé. Jacob va trouver, encore une fois, un stratagème un peu alambiqué, sur base de couleur de brebis, un système un peu borderline, pour se sortir de ce mauvais pas, et il va fuir avec femme, enfant, chameau, serviteur, pas dans l'ordre, et il va encore fuir le conflit avec Laban et fuir la vengeance de Laban. Jacob a-t-il appris quelque chose ? Jacob a-t-il changé ? Jacob est-il toujours le même homme ? Jacob a-t-il appris sur lui, sur sa manière de fonctionner ? Bethel, la maison de Dieu, la rencontre avec Dieu, est-elle un lointain souvenir ? Alors dimanche dernier, on s'est posé la question de savoir si Jacob était un cas désespéré, un petit peu comme nous, bien souvent. C'est vrai qu'en le regardant, en regardant son cheminement, on a l'impression, on n'a pas l'impression qu'il est dans une progression exponentielle. Il semble même faire un peu de surplace, mais Dieu n'en a pas fini avec lui. Et Dieu va provoquer un deuxième grand moment dans la vie de Jacob, un moment déterminant, un deuxième Bethel. Et donc Jacob quitte Laban et la Mésopotamie, et Jacob retourne vers le sud, et il va passer dans un territoire qu'il connaît bien, enfin qu'il connaît bien, qu'il redoute surtout, c'est le territoire de son frère Ésaü. Et il faut bien comprendre qu'en traversant le territoire d'Ésaü, il va rentrer en pleine zone de conflit. Il vient de quitter un conflit avec son beau-père ou son oncle Laban, à 20 ans de conflit, il vient de le quitter, avec son beau-père qui est aussi son employeur de conflits sociaux et relationnels et conjugaux. Et là, il va retrouver un autre conflit. Les conflits semblent le suivre à la trace. Il retrouve ce conflit avec Ésaü qu'il avait fui, et ce conflit lui revient en pleine face. D'autant qu'il apprend qu'Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes. Et pour embrasser son frère jumeau. Alors ça fait un peu de monde juste pour une embrassade. Et Jacob est mal, très mal. Et en Genèse 32, verset 8, Jacob eut très peur. L'angoisse le saisit. Cette angoisse qui, malgré ses tromperies, le suit aussi à la trace. Et le texte veut nous indiquer que Jacob se retrouve en face du conflit de sa vie, en face de son frère, en face aussi de lui-même, de son passé. Et il va faire comme il sait le faire, il va organiser une tactique pour ne pas trop perdre la face dans ce conflit, alors qu'il traverse le territoire d'Ésaü. Et vous pouvez lire la tactique de Jacob au début du chapitre 32, mais on ne va pas le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les tactiques d'évitement de Jacob, dans ces tactiques d'évitement de Jacob, c'est de voir que c'est là, au beau milieu de ce conflit et de son angoisse pour son frère ou avec son frère, que Jacob va rentrer lui-même en conflit. Il va rentrer en conflit avec un ange. Et on comprendra dans le texte, et on l'a lu tout à l'heure, que cet ange, c'est Dieu lui-même. Il va rentrer en conflit avec Dieu. C'est l'épisode unique, inédit, dans toutes les séries télévisées, d'un homme qui lutte avec Dieu. Et c'est là, dans ce conflit avec Dieu, dans cette lutte avec Dieu, que la vie de Jacob, cet homme en démêlé avec la grâce de Dieu et en conflit avec le monde entier, c'est là que la vie de cet homme va prendre un virage déterminant. Et on l'a lu, ce combat ne contient qu'un seul round, mais quel round ? Comment on dit en français, round. C'est un combat tout à fait extraordinaire. Un petit peu étrange quand même, hein, il faut l'avouer. Ce combat avec Dieu, avec un ange. Mais magnifique. Et vous avez encore une peinture de Chagall, de ce peintre juif qui a dépeint avec de si belles couleurs les scènes bibliques. Mais dans cette histoire, quelqu'un faisait remarquer qu'il ne fallait pas se tromper de héros. Le héros, ce n'est pas Jacob, c'est Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative du combat, qui prend l'homme à bras-le-corps et qui, en perdant le combat, parce que c'est Dieu qui perd le combat, puisque Jacob est déclaré vainqueur, en perdant le combat, donne une leçon à Jacob, une leçon de vie. Et pour en parler, j'aimerais donner trois mots qui ont trait à la personne de Jacob. Le premier mot, c'est le mot « face ». Tout le récit joue sur le mot « face », « panim », en hébreu. Et avec le mot « face », on l'a chanté tout à l'heure, « je viens devant ta face », ça veut dire quoi ? Devant ta personne, le mot « face » représente la personne. Après avoir combattu, Jacob va dire « j'ai vu Dieu face à face ». En hébreu, « panim el panim ». Visage contre visage. Et ce combat de face à face montre que le problème le plus fondamental de Jacob ne se situe pas au niveau de son conflit avec Ésaü, mais de son rapport avec Dieu. Et c'est là le problème. C'est ce conflit-là qu'il faut d'abord régler avant de pouvoir résoudre son conflit avec son frère. Et ce conflit avec Dieu, il le règle là, dans cette bagarre avec Dieu, à Péniel, qui vient de Panim, Péniel, face à Dieu. Et il appelle cet endroit Péniel parce qu'il a vu Dieu face à face. Et parce que dans cette bagarre avec Dieu, face à face, le masque tombe. Le masque de trompeur en manque de bénédiction. Vous avez remarqué, quand on lit le récit de Jacob, C'est un être trompeur, oui, mais en manque de bénédiction. Il demande la bénédiction. Il vole la bénédiction de son père Isaac, alors qu'elle devait aller à Isaac, il la vole pour lui. Là, dans le combat avec Dieu, il lui dit « ne pars pas sans m'avoir donné ta bénédiction ». Et plus tard, à Ésaü, il demandera sa bénédiction. C'est un homme en recherche de bénédiction. Et là, dans sa lutte avec Dieu, le masque tombe et la comédie de sa vie où il essaye de s'en sortir tout seul pour obtenir la bénédiction ou la reconnaissance des autres tombe aussi. Où cette comédie est révélée au grand jour de la présence de Dieu, de sa bénédiction, de la bénédiction de Dieu et de sa grâce. On peut dire dans ce combat qu'il a été touché par la grâce. J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. C'est-à-dire que j'ai pu voir Dieu et je m'en suis tiré. Mais ça peut vouloir dire, et ça veut dire également, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et mon intérieur a été transformé. Et j'ai été touché par sa grâce, par son accueil. Et on peut dire aussi que dans ce face-à-face avec Dieu, Jacob se retrouve lui-même. Parce que dans un face-à-face, si je compte bien, il y a deux faces. Il y a la face de Dieu, mais il y a aussi la face, ma face, ou la face de Jacob, en l'occurrence. La face de Jacob aux multiples facettes, mais dans ce face-à-face avec Dieu, c'est Jacob dans toute sa personne, dans tout son être, le véritable Jacob avec ses failles, avec ses manques, qui se révèle. Et qui est touché par Dieu, dans son être le plus profond, dans son être véritable. Touché par le Dieu véritable dans son être véritable. Dans cette lutte, Jacob a rencontré Dieu, mais s'est retrouvé lui-même aussi. Un moment de vérité pour Jacob. Et à partir de là, les choses vont changer. La première chose qu'il va faire, après cette lutte avec Dieu, c'est aller se réconcilier avec Ésaü, mais non pas en élaborant un stratagème, en faisant passer les moutons, les femmes, les chameaux avant pour essayer d'amadouer Ésaü et lui faire des cadeaux, mais avec une toute autre attitude, parce qu'il y a eu cette lutte avec Dieu où il s'est retrouvé lui-même. Mais maintenant, il a fait tomber les masques, il peut faire face au conflit avec son frère Ésaü. Et c'est un autre face-à-face qui commence, face de Jacob, face d'Ésaü. Et on voit que le récit parle encore de face. Je vous cite chapitre 32, verset 21. Jacob cherche à apaiser la face d'Ésaü pour pouvoir le voir en face, toujours panim. C'est magnifique le texte biblique. Et en 33:10, là ils se rencontrent, c'est pour la réconciliation. Jacob dit à Ésaü, « Non, dit Jacob, je t'en prie, si j'ai obtenu ta faveur, accepte mon présent, car je t'ai vu en face comme on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement. » C'est Jacob qui parle. Et il parle de son face-à-face avec Dieu qui lui permet de voir Ésaü face-à-face et rentrer dans une démarche de pardon et de réconciliation. C'est extraordinaire. Jacob a bien conscience, mais c'est nouveau pour lui, que si Ésaü l'a accueilli favorablement, c'est parce que Dieu l'a accueilli favorablement, lui, Jacob. Jacob reconnaît enfin que c'est grâce à l'intervention divine, et non par rapport à ses propres tactiques, stratagèmes, coups foireux, enfin pas toujours foireux qui marchent, mais coups fourrés. Plus avec ça, mais juste l'intervention divine par sa grâce, qu'il peut se réconcilier avec son frère. Jacob, en démêlé avec la grâce, reconnaît dans cette lutte avec Dieu que c'est Dieu qui intervient dans la vie de son frère et dans la sienne. Il reconnaît dans la lutte corps à corps et face à face avec Dieu la grâce de Dieu dans sa vie. Ésaü courut à la rencontre de son frère. Les deux pleurent. Le texte nous dit, on pleure beaucoup dans l'histoire de Jacob, mais ce ne sont plus des pleurs de fatigue nerveuse comme dans les bras de Rachel, mais ce sont des larmes de libération. Jacob est libéré, il traînait des casseroles énormes dans sa vie. Mais touché par la grâce, il peut éliminer la casserole du conflit avec Ésaü. Et cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean illustre bien « La vérité vous rendra libre ». Et Jacob est libre parce qu'il a eu ce face-à-face de vérité, ce moment de vérité devant Dieu. Jacob n'était pas libre depuis le plat de lentilles, il était prisonnier de son personnage et de ses mensonges, et puis il y a ce combat face à face avec Dieu, au contact de la vérité de ce qu'il est devant Dieu, qui le rend libre de se réconcilier avec son frère. Il y a de ces face à face qui changent la vie. Deuxième mot, le premier mot c'était la face, pour parler de ce combat, le deuxième c'est la hanche. Alors, comme d'habitude, Jacob lutte pour obtenir ce qu'il veut. Il veut la bénédiction. Personne ne sort tant que je ne suis pas béni, comme le surveillant au collège. Personne ne sort tant que le coupable ne sera pas dénoncé. Moi, j'ai des souvenirs comme ça. On était tous là. Là, personne ne sort tant que tu ne m'as pas béni. Ça, c'est le style de Jacob. Et il va obtenir bénédiction, mais c'est au prix d'une blessure. Une blessure à la hanche. Une blessure à la hanche de Jacob qui va l'handicaper toute sa vie, puisque le texte nous dit qu'il partit de ce lieu de Péniel, il partit de ce lieu boiteux. Il restera marqué à vie, dans sa chair, marqué comme un signe, on va dire, de l'humilité qu'il doit maintenant pouvoir montrer. Une humilité nécessaire devant Dieu. Il est peut-être sorti vainqueur du combat, mais c'est une victoire quand même qui laisse des traces. Des traces qui rendent terriblement humble. Et quand on pense que la Bible se sert très souvent du verbe « marcher » pour décrire la conduite d'un homme ou son comportement dans la vie, il marchait droit, il marchait selon Dieu, il marche dans la justice. On comprend peut-être mieux le sens de cette blessure à la hanche pour Jacob. Il ne marche plus de la même façon. Boite. Avant cette nuit, Jacob marchait encore comme il entendait marcher, mener sa vie, avec ses propres schémas. Maintenant, il s'appuie peut-être sur un bâton pour marcher. Peut-être qu'il marche en s'appuyant un peu plus sur Dieu. En tout cas, il marche dans une relation de dépendance avec Dieu. C'est une blessure à la hanche donnée par Dieu. Et on entre, là encore, dans la pédagogie de Dieu qui nous dépasse souvent, et les kinésithérapeutes se demandent comment un Dieu d'amour peut toucher quelqu'un dans son appareil locomoteur. Hein, t'as reconnu ? Et c'est quoi le muscle qui... C'est le psoas ? C'est les fessiers. Bon, ouais, les fesseps, comme disait l'autre. Bon, bref, il le touche là. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi Dieu touche à la hanche, là. Enfin, si, j'essaie de vous expliquer pourquoi, mais je n'ai pas toutes les réponses. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a en vue le changement du cœur de Jacob. Parce qu'il est porteur de la promesse, parce que, Dieu a pour lui un avenir fait d'espérance. Alors il intervient dans sa vie, en l'occurrence par une blessure qui lui fait mal, qui le brise peut-être, qui atteint sa fierté d'homme, qui marche tout seul, de self-made man, comme on dit, qu'il atteint mais qui lui rappelle qu'il a besoin de Dieu. Moi j'oserais un parallèle, établir un parallèle avec une parole de Jésus qui a trait aussi à notre anatomie. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, dit Jésus, arrache-le, car il vaut mieux arriver borgne dans le royaume des cieux qu'avoir ses deux yeux et d'être dans la géhenne, c'est-à-dire loin de Dieu. Il dira aussi, il vaut mieux être manchot et entrer dans le royaume de Dieu que d'avoir ses deux bras et d'être jeté dans la géhenne. Et c'est radical, mais c'est un peu radical comme la blessure à la hanche de Jacob, c'est douloureux, mais il vaut mieux être boiteux ou avoir une prothèse totale de hanche et de s'appuyer sur Dieu que d'avoir deux hanches tout à fait intactes et de marcher sans Dieu toute sa vie. Ça, c'est Jacob. Jacob a lutté avec Dieu qui lui a donné un coup à la hanche. Et voilà que Jacob devient Israël. Troisième mot, la face, le nom, la face, la hanche, le nom. Vous avez remarqué qu'en plein milieu du combat, Dieu pose une question à Jacob. Quel est ton nom ? Ça ne se fait pas sur un ring de boxe. Tiens, t'as pas ton... J'aimerais avoir ton numéro de portable. Dieu sait comment il s'appelle. Mais en lui demandant son nom, Dieu le met devant la réalité de sa vie. Le talon, le talonneur à la main, le trompeur. Et un moment encore de vérité pour Jacob, un moment difficile pour lui où tous ces tromperies, ces conflits défilent devant lui en accéléré comme le film de sa vie. Mais moment de grâce encore, Dieu change son nom. Il ne s'appelle plus Yaakov. Et vous allez admirer mon montage. Mais Israël, en hébreu, ça se lit de droite à gauche, comme ça, chacun sait. Et Israël, Jacob le trompeur, le talon le trompeur, devient Israël. Il lutte avec Dieu et il a gagné. Il a gagné dans ce face-à-face avec Dieu et ce face-à-face avec lui-même. L'homme de conflit en tout genre finit par lutter avec Dieu et s'en sortir de ce conflit avec Dieu tout à fait changé. Et c'est là que se situe la victoire, non pas la défaite de Dieu, mais la victoire sur lui-même, transformer le Jacob. Alors je ne sais pas comment décrire cette victoire, mais il me semble qu'elle se situe du côté de la grâce de Dieu, c'est elle la grande gagnante dans l'histoire, parce que Jacob devient Israël et il laisse Dieu prendre les commandes de sa vie. Et le prophète Osée, quelques siècles plus tard, 5-6 siècles plus tard, l'écrira de cette manière, Osée 12, « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu, il lutta avec un ange et fut vainqueur. » Il pleura, Jacob, et lui demanda grâce. Jacob l'avait trouvé à Bethel. La grâce, Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la Bible continue à l'appeler Jacob. J'ai calculé, enfin c'est avec l'ordinateur c'est plus facile, mais deux fois plus souvent, elle l'appelle Jacob, après sa lutte, qu'Israël. Peut-être pour indiquer que Jacob n'a pas encore terminé l'école de la grâce. Que le travail de Dieu n'est jamais complètement terminé et ne sera complètement terminé qu'au jour de Jésus-Christ. Il y a du changement chez Jacob, mais pas une ligne croissante continue, plutôt des pointillés, avec des zones de foi, avec des zones de non-foi, des sauts, des retours. Ouais, les pointillés, mais quand même. Un peu comme notre chemin à nous, qui est fait de pointillés également. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que un peu plus tard, dans Genèse 35, Jacob revient à Bethel, où Dieu va encore une fois confirmer sa promesse. Et Jacob va appeler ce lieu El Bethel. Dieu, la maison de Dieu. Le El, ça veut dire Dieu, Elohim. Et il rajoute El, comme si maintenant Jacob s'était enfin stabilisé en Dieu, malgré tout, malgré ses pointillés. Comme une marque de consécration, ma vie, mon histoire est vraiment la maison de Dieu. Je suis le sanctuaire de Dieu. Il me change de l'intérieur. Et ce qu'il a fait avec ce Jacob, le trompeur, le retors, le petit Jacob, il peut le faire avec chacun d'entre nous, que vous soyez rusé, retors, manipulateur, orgueilleux, égoïste, teigneux, colérique, angoissé, amer, énervé, j'en passe des meilleurs. L'histoire de Jacob nous invite dans un premier temps, et à Bethel, à ne pas nous considérer comme des cas désespérés. C'est déjà ça. Mais dans un deuxième temps, à Péniel, elle nous invite à ne pas refuser le combat d'un face-à-face avec Dieu où les masques tombent. On pourrait parler, comme je l'ai dit déjà, de moments de vérité pour pouvoir reprendre la marche de la vie, mais cette fois dans le bon sens. Vous savez que la Bible parle du mensonge avec des termes assez radicaux, et ce n'est pas seulement les mensonges que l'on dit sur les autres, mais c'est le mensonge que l'on dit sur soi ou que l'on vit sur soi, se mentir à soi-même. Et on le dit dans une épître de Paul, rejeter le mensonge. Un verbe ultra dynamique, rejetez-le loin de vous, débarrassez-vous, savoir dire non au mensonge sur soi, à tous ces masques que l'on prend, fermement, énergiquement, non. Et le meilleur moyen de faire tomber le masque, c'est de s'exposer à la parole de Dieu, à la Bible, à Dieu qui nous parle. Jésus dit dans sa prière finale, ta parole est la vérité. Et la suite, transforme-les par ta parole. Cette vérité, une fois dite sur nous, qui nous rend libres, libres de vivre vraiment avec Dieu, pour sa gloire, dans son projet. Dieu veut nous transformer, nous métamorphoser pour sa gloire, mais il faut pour nous que nous apprenions à marcher à visage découvert, à face découverte. Et je reprends cette expression parce qu'il y a Paul qui dit, alors là, presque 1500 ans plus tard, aux Corinthiens, « Et nous tous qui, le visage découvert, nous puissions contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur et en être transformés de jour en jour comme par le Seigneur l'Esprit. » Et le face-à-face, il y est là. Pour être transformé par l'Esprit de Dieu. Trois phrases pour terminer et pour résumer cet épisode inédit de la Bible, ce combat de Jacob. Péniel et nous. Un moment, le moment de vérité qui rend libre. La vérité sur moi, par-delà le masque, vérité de mon besoin d'être accueilli par Dieu, d'être pardonné par Dieu. L'abandon de mes mensonges sur moi. De mes fuites, de mes conflits non résolus, un moment de vérité qui rend libre. Le face-à-face avec Dieu pour faire face à la vie. Le besoin d'être touché par la grâce de Dieu pour faire grâce à mon tour aux autres. Besoin d'être pardonné par Dieu pour pardonner aux autres. Besoin d'être accueilli par Dieu pour pouvoir accueillir les autres. Un face avec Dieu qui nous permet à faire face à la vie dans toutes ses circonstances. Et ce changement qui change tout, ce toucher de la grâce qui nous fait entrer dans une transformation. La Bible va jusqu'à parler de métamorphose. Nous, à visage découvert, pour le refléter dans notre vie. Un changement qui change tout. Il y a tout là-dedans, la vérité, le face-à-face, le changement. La vie est quelque part un péniel pour nous, un combat avec Dieu. Et cette vérité qui vient de Dieu nous fait mal, parfois nous blesse à la hanche ou autre part. Mais Dieu ne nous lâche jamais que cette promesse de la fidélité de Dieu nous accompagne, que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen.